Alors, voilà, pour que l'Église te connaisse un peu mieux, est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots d'où tu viens, si tu es marié, si tu as des enfants, ta situation un peu familiale?
Voilà, je suis français, mais la Belgique, c'est un petit peu ma deuxième patrie. Donc, je ne suis pas originaire, je ne suis pas natif de la région de Condé, mais j'habite avec mon épouse, Josiane, mes trois enfants, Elisabeth, Marc et Mathieu, donc à Vieux-Condé. Alors, si vous faites un triangle entre Mons, Tournai, Valenciennes, on est à peu près au milieu du triangle.
Voilà. Alors, si aussi une deuxième petite question, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous raconter comment tu as rencontré ton sauveur?
Oui, alors, c'est difficile d'être bref, mais j'étais un déiste. C'est-à-dire que ma foi se limitait à admettre l'existence de Dieu. Donc je n'engageais pas tellement Dieu et je ne m'engageais pas tellement non plus. Un jour, ma mère m'a donné une Bible. J'avais pas tellement envie de la lire, mais je l'ai quand même lue pour lui faire plaisir. Et je suis tombé sur le psaume 22. Et c'est en lisant le psaume 22 qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui a réagi. Et j'ai compris, je ne me suis pas converti directement à ce moment-là, mais j'ai compris à ce moment-là que la Bible, ce n'était pas un livre ordinaire, mais que c'était vraiment la parole de Dieu. Et là, j'ai commencé donc vraiment à chercher Dieu. J'ai accepté de suivre ma mère à l'église. Et j'ai fait, c'est ainsi que, par cheminement, disons, je suis arrivé à la conviction non seulement que Dieu existe, mais aussi qu'il est véritablement mon bon sauveur, et je l'ai accepté dans mon cœur.
Amen. Peux-tu nous dire aussi, comme dernière question, ce que tu fais à l'Église, dans ton service, en quoi consiste ton service dans l'Église, si tu es appliqué dans des ministères ou dans...
Oui, donc je suis ancien, donc on est deux anciens. L'ancien principal, disons, qui est Louis Socheo, peut-être que certains connaissent. Et donc moi, je le seconde dans le domaine de la prédication. Et aussi, je suis le trésorier de l'Église.
Parfait. On va prier pour toi et pour le message que le Seigneur a mis sur ton cœur. Merci encore de nous permettre, Seigneur, d'avoir André, Seigneur, comme invité ici. Seigneur, c'est un privilège, Seigneur, que tu puisses vraiment diriger ces paroles, ces mots, Seigneur, que tu puisses transmettre, Seigneur, à cette assemblée, Seigneur, ce que tu as placé sur son cœur, Seigneur, que ce soit édifiant, Seigneur, que ça puisse aussi nous chambouler, nous remettre en question, Seigneur, que ta parole puisse agir puissamment, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Amen.
Amen. Eh bien, je suis très heureux, c'est la première fois que je viens ici, et je suis heureux, c'est vrai, de vous rencontrer. Alors, j'ai la voix souvent un petit peu éraillée. Je me suis un peu trop pris pour Caruso quand j'étais jeune, et j'en paye un petit peu le prix maintenant. Donc, nous nous sommes présentés. J'ai une activité en dehors de l'église locale. Donc, je vous laisserai quelques flyers. Donc, j'écris. Je précise que l'écriture n'est ni mon métier, ni mon ministère. C'est un violon d'ingre. Mais c'est un violon d'ingre qui me permet aussi d'annoncer, de témoigner de ma foi. Donc j'ai amené quelques-uns de mes ouvrages. Donc, rendez-vous à Golgotha. C'est une dizaine de messages d'évangélisation. Et je vous invite aussi donc à visiter mon site internet, www.lilianoff.fr. Voilà, je voudrais maintenant partager avec vous un passage des Écritures. Et je vous invite à faire une première lecture. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du bon usage de la parole de Dieu. Et donc, je vous invite à une première lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 39. Jean 5, 39. « Bon, l'intégrale du message, vous l'aurez aussi sur, vous le trouverez aussi sur lilianov.fr. Hein. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et je vais lire aussi le verset 40 dans la foulée. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Une deuxième lecture dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta parole. Et c'est vrai, chaque fois que je monte au pupitre, j'ai la crainte d'avoir de mal enseigner, de mal comprendre ta parole, de trahir ta pensée faute d'une bonne compréhension. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te demande vraiment l'assistance de ton Saint-Esprit, afin que ce ne soit pas ma parole qui soit annoncée ce matin, mais que ce soit vraiment ta parole, mon Dieu. Et c'est pourquoi nous te remercions. Maintiens-nous attentifs à ton enseignement. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de réaliser qu'il n'y a pas d'autre parole, que rien ne peut se substituer à celle que tu nous as donnée, ni la compléter, ni la modifier. Merci, Seigneur Jésus. À ton nom soit la gloire. Amen. Donc, dans cet entretien avec les Juifs, Jésus dit « Vous sondez les Écritures ». Il sous-entend « Vous faites bien ». Mais écoutons la suite. « Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle », et il sous-entend « Vous avez tort ». En effet, la Bible n'est pas un talisman. Elle ne donne pas la vie éternelle, mais elle révèle celui qui peut la donner. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Malheureusement, ces Juifs refusent de croire en lui. La possession et la connaissance des Saintes Écritures ne leur servent donc à rien. Le second verset que nous avons lu est une métaphore. La parole de Dieu n'est pas une chose visible ni palpable. Alors l'apôtre Paul, pour nous aider à mieux comprendre, la représente sous la forme d'un objet commun. Une épée. Le chrétien est donc bien armé. Il possède sa Durandale ou son Excalibur, de quoi impressionner l'ennemi et surtout de le vaincre. Mais posséder une bonne épée ne suffit pas. Si je ne sais pas par quel bout la prendre, je ne tarderai pas à me blesser. Pire, si j'ignore les règles de l'escrime et que je m'élance à l'assaut de l'ennemi, je vais me faire découper en rondelles. C'est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui vous donner quelques règles élémentaires d'escrime. Je ne parlerai pas beaucoup de théorie ni de théologie, sachant qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Je donnerai surtout des exemples. Parlons pour commencer des méthodes d'étude de la Bible. Il existe différentes méthodes, vous n'êtes pas obligé de mémoriser leurs noms, inductives, déductives, thématiques, allégoriques, etc. Prenons par exemple l'étude allégorique, c'est-à-dire qui part du principe que dans la Bible tout est allégorie. Il est vrai que dans la Bible nous trouvons des allégories et des symboles. Nous avons tous compris que quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », le pain ne se transforme pas littéralement en corps de Christ. Il s'agit d'un symbole, ou plus exactement d'une métaphore. Devons-nous pour autant admettre que toute la Bible est symbole ? Nous pourrions alors penser que la résurrection de Jésus est aussi un symbole. Cela donc ne voudrait pas dire que Jésus est réellement ressuscité, mais cela nous parle de renouveau, etc., etc. Donc, l'interprétation allégorique, elle ne marche pas forcément. J'ai eu un jour affaire à une secte qui s'appelait les Annales de l'Esprit. Ils étaient à l'époque, j'étais jeune marié, j'habitais à Vichy, et ils étaient une cinquantaine d'adeptes réunis sur la France en deux ou trois églises locales, une à Vichy, l'autre à Châtellerault. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur eux. Toute leur doctrine repose sur une petite phrase. La lettre tue et l'esprit vivifie. Partant de ce fait, ils considèrent que tous les chrétiens sont dans l'erreur parce qu'ils comprennent la Bible selon la lettre, tandis qu'eux la lisent selon l'esprit. Ils sont donc les seuls détenteurs de la vérité, comme toute secte qui se respecte d'ailleurs. Quand la Bible parle de la vie, il faut comprendre qu'on parle de la mort, et inversement. Ils croient à leur... Ils enseignent la réincarnation et donnent pour exemple Mozart qui, selon eux, aurait été dans des vies antérieures un musicien médiocre, mais à force de se réincarner, de se réincarner, eh bien il a fait des progrès jusqu'à devenir le grand Mozart que nous connaissons. Et je leur ai répondu, mais enfin, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ils m'ont rétorqué avec un sourire moqueur. Mais vous n'avez pas compris parce que vous lisez la Bible selon la lettre. Alors j'ai cessé de discuter avec eux. Nous nous recommandons la méthode inductive. Quel est ce mot bizarre? Eh bien, il y a le « un » qui signifie « intérieur ». Donc regardez la Bible de l'intérieur. Supposons que je veux trouver une réponse à la question « Qui était Salvador Dali ?» Je sais déjà que c'est un peintre, qu'il était espagnol, qu'il vivait au XXe siècle, qu'il peignait des montres molles et des tas de choses bizarres. Mais si je veux en savoir plus sur lui, sur son œuvre, qu'est-ce qu'il motivait quand il prenait sa palette et ses pinceaux, je peux toujours tenter de faire ce qu'on appelle un micro-trottoir, interroger les gens dans la rue et noter les réponses les plus intelligentes. Connaissez-vous Dali? Ah, mais oui! C'est celle qui chantait Palole et Palole et Palole. Non! Non, non, ça c'est Deliga. C'est Dalida. Ah bon? Au suivant. Que pensez-vous de Salvador Dali? C'était un fou. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était un génie. Je ne suis pas plus avancé. Vous voyez bien que ce n'est pas la bonne méthode. La meilleure façon d'aborder le problème, s'il était encore en vie, serait d'aller le voir et de lui poser des questions pertinentes. Mais, faute de cette possibilité, j'ai un jour eu l'idée d'aller dans une bibliothèque, d'aller chercher un livre sur la vie et l'œuvre de Dali, illustré de nombreuses reproductions de ses tableaux. Et je me suis ainsi forgé ma propre opinion. Pour moi, Salvador Dali, c'était un génie. Mais un génie qui avait quand même un petit grain. C'est mon opinion personnelle. Et je la partage, comme disaient les deux Dupont. En ce qui concerne notre approche de la Bible, nous devons faire la même démarche. Je n'interdis pas, et même je recommande d'utiliser un commentaire biblique. Mais là aussi, je me propose de faire un micro-trottoir sur la Bible. Que pensez-vous de la Bible? Bah, c'est Jésus-Christ, à la fin de sa vie, il a fait son autobiographie, quoi. Et vous? C'est un livre d'histoire. Ça raconte la vie de Moïse, de Jésus, tout ça. Et vous? C'est de la mythologie. Elle tente d'expliquer par des légendes ce que la science ne pouvait pas encore prouver, les origines de l'homme, tout ça. Et vous? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, parole de Dieu? Bah, là aussi, les sources extérieures nous embrouillent. C'est dans la Bible elle-même que nous trouvons les réponses à toutes nos interrogations. Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, John Knox ont dit la même chose. Il y a des textes difficiles dans la Bible, mais pour chaque difficulté, nous trouvons un autre passage qui nous l'explique. Avant de prendre ma décision pour Christ, j'ai commencé à recevoir les témoins de Jéhovah. Ils venaient donc me rendre visite avec leur Bible et un petit livre bleu intitulé « La vérité qui conduit à la vie éternelle ». nous étudions l'un et l'un à la lumière de l'autre et inversement. Un ancien témoin de Jéhovah écrivait un jour dans un livre qu'il a écrit « Je lisais la Bible avec mes lunettes Watchtower ». Alors oui, c'est vrai, maintenant on les appelle plus les témoins de Jéhovah, on les appelle les Jihweh. Mais c'est la même chose. Hein. Quand je me suis converti pour de bon, je me suis passé de leur visite et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Je cherchais certains textes dans ma Bible et je ne les trouvais pas. Je ne les trouvais pas tout simplement parce qu'ils n'y étaient pas. Ce n'est pas dans la Bible que je les avais vus, mais dans la vérité. J'étais demeuré dans la confusion. Je ne savais pas, dans ma connaissance spirituelle, qu'est-ce qui était vraiment dans la Bible et qu'est-ce qui était dans la littérature des témoins de Jéhovah, des Jihweh, si vous préférez. Même si de bons livres sont utiles, la parole de Dieu se comprend par elle-même. Parlons maintenant du contexte historique et culturel qui tient une place importante dans notre compréhension de la Bible. Nous ne sommes pas obligés de remonter jusqu'à Moïse pour nous trouver confrontés à des difficultés d'ordre historique et culturel. William Shakespeare a vécu au temps de la reine Élisabeth Ier, fin du XVIe, début du XVIIe siècle. On peut dire que c'est presque un de nos contemporains. Et pourtant, nous sommes en droit d'être surpris, d'être troublés quand nous lisons Shakespeare, quand nous lisons dans une de ses œuvres qu'il est question d'un homme qui a tué sa femme parce qu'elle a perdu son mouchoir. Bizarre, cette affaire-là. J'ai perdu mon mouchoir. C'est pas grave, ma chérie, nous allons au marché, on va en acheter un autre. Eh bien, avec Shakespeare, c'est une autre histoire. Le général Othello, c'est le nom du mari, avait gagné une bataille et son patron, le doge de Venise, lui avait épinglé une ou deux médailles et ses copains en bavaient d'envie. Voilà pour le contexte historique. Voyons maintenant le contexte culturel. Othello avait offert un mouchoir à sa femme qui s'appelait Desdemona. Un mouchoir, c'était pas un truc en papier qu'on se mouche dedans et qu'on jette. Un mouchoir, ça ne s'offrait pas à n'importe qui. C'était un produit de luxe. Offrir un mouchoir à une dame, c'est comme si on lui offrait un bijou, un diamant. Or, Desdemona a perdu son mouchoir. Othello avait un ami qui lui voulait du mal. Il s'appelait Iago. Ce Iago était une infâme crapule, mais Othello croyait tout ce qu'il disait. Inutile de chercher midi à 14h, lui dit Iago, si elle n'a plus son mouchoir, c'est qu'elle l'a donné à son amant. Othello, qui était jaloux comme une bête, n'a fait ni une ni deux. Il a pris Desdemona par le cou et carque. Sans connaître le contexte historique et culturel, nous serons embarrassés pour comprendre de nombreux points bibliques. D'où sortent les Samaritains, par exemple, et pourquoi les Juifs ne pouvaient pas les voir. Un autre exemple. Il n'y a pas si longtemps, dans certaines églises, que celles que j'ai connues en tout cas, toutes les femmes devaient obligatoirement porter un chignon. Un kegdal, comme disait mon grand-père, qui était un freshti de Lens. On parlait même du chignon pentecôtiste ou du chignon apostolique, toutes les sœurs venaient à l'église avec leur chignon. Alors pourquoi ? Jusqu'au début du XXe siècle, il n'était pas convenable pour une femme de sortir en cheveux, c'est-à-dire avec la chevelure tombant sur les épaules. On l'aurait prise pour une dévergondée. Les femmes chrétiennes n'avaient pas non plus le droit de se faire couper les cheveux. Il ne restait donc pas beaucoup de choix en matière de coiffure. Elles auraient pu se faire des tresses, comme Laura Ingalls. C'est vrai qu'elle est mignonne, la petite Laura, avec ses nattes. Mais non, ça, c'est interdit, et c'est écrit dans la Bible. Alors, qu'est-il écrit exactement ? 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, voilà le mot, de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Les mots qui précèdent « tresses » nous éclaire sur la pensée biblique. Et les mots qui le suivent nous le confirment. Ce que veut l'apôtre Paul, c'est que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ce qui nous paraît normal. Alors, en quoi le fait pour une femme d'avoir les cheveux tressés serait indécent ou impudique ? Il faudrait vraiment voir le diable partout. Avec modestie, dit l'apôtre. Là, on se rapproche. Il est demandé à tout chrétien, homme ou femme, de faire preuve de modestie et d'humilité. La modestie et l'humilité, au même titre que l'orgueil et la vanité, se montrent aussi dans le vouloir paraître. Sans pour autant refuser aux femmes le droit à l'élégance, Paul n'accepte pas les abus dans le luxe vestimentaire. Ne dilapidez pas vos biens dans des futilités alors qu'il y a tant de misère à soulager. Voilà le message. Alors en quoi les tresses constituent-elles un excès de luxe et de frivolité ? Tout simplement parce que les femmes romaines, lorsqu'elles tressaient leurs cheveux, les tressaient avec des chaînes d'or auxquelles pendaient toutes sortes de colifichets, de pierres précieuses, et cela coûtait très cher et c'était très vaniteux. C'est ce que nous comprenons dans la fin du verset. Pas de tresses, mais surtout pas d'or, pas de perles, pas d'habits somptueux. Tresses à la Laura Ingalls, oui. Tresses à la matrone romaine, non. Enfin, passons à un troisième exemple pour illustrer notre propos. L'homme à la cruche. Marc chapitre 14, verset 13. Et Jésus envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. » Si nous devons aller accueillir dans une gare un voyageur que nous n'avons jamais vu, nous pouvons convenir d'un code de reconnaissance. Je vous attendrai au bout du quai, j'aurai un chandail bleu et j'aurai tel journal à la main. Jésus entreprend le même disciple avec ses démarches. Mais pourquoi une cruche ? Une chose est certaine, l'homme à la cruche ne pouvait pas passer inaperçu et les disciples ne pouvaient pas manquer le rendez-vous. Un homme ne porte jamais une cruche d'eau, du moins à cette époque-là. C'est le travail des femmes. C'est un peu comme si un homme aujourd'hui se promenait avec un sac à main pour une dame. Et cet homme qui se montrait en public avec une cruche sur la tête s'expose à toutes sortes de moqueries. « Ah, lui, t'as vu, il se promène avec une cruche. C'est pas un homme. » Et les disciples n'ont certainement pas envie de le suivre. Que vont dire les copains ? Ils vont dire « On t'a vu avec un type qui se promenait avec une cruche. » La honte. Voici l'enseignement que Jésus veut nous enseigner par ce détail qui, j'en suis sûr, échappe à beaucoup de chrétiens. Si nous voulons le suivre, nous devons marcher, accepter de marcher à contre-courant des convenances de ce monde et d'en subir les conséquences, être moqué du doigt, essuyer les quolibets, les humiliations, les moqueries. Nous devons aussi apprendre à déjouer les erreurs liées à la mauvaise compréhension du sens des mots. En français, par exemple, quand on parle de quelqu'un en disant « celui-là, il est stupide », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est limité sur le plan intellectuel. Mais dans le sens premier, quelqu'un de stupide, c'est une personne qui perd momentanément ses moyens sur le coup d'une forte émotion, la stupeur. Et une fois que l'émotion est passée, bien, il redevient normal. Il n'est pas stupide toute sa vie. Le mot « bureau » signifie d'abord un morceau de tissu. Il a ensuite désigné la table sur laquelle on le pose, ensuite la pièce dans laquelle on trouve cette table, et ensuite l'ensemble des personnes qui se réunissent dans cette pièce, autour de cette table sur laquelle est posée une pièce de tissu. Donc, Le sens des mots varie d'un tout à tout selon la façon dont on le comprend. Le problème s'accroît lorsque nous avons affaire, comme dans la Bible, à des mots traduits de l'hébreu ou du grec. La mer. Ne trouvez-vous pas bizarre qu'on parle de la mer dans une grande vasque à l'entrée du tabernacle ? En français, le mot mer désigne une vaste étendue, d'eau salée. En allemand, le même mot possède un sens plus large. C'est à la fois une mer ou un lac. Nordsee, Bodensee. En hébreu, le même mot désigne une étendue d'eau. D'abord la mer, comme en français, ou un lac, ou un étang, un bassin, une baignoire, un verre d'eau. Ce n'est pourtant pas la mer à boire. Le bassin dans lequel les sacrificateurs devaient se purifier était donc bien une mer. De même, une île désigne, comme en français, dans le texte biblique, un territoire entouré d'eau, mais aussi un territoire au bord de la mer. Dans le sens biblique, la Guyane est donc une île. Autre mot qui nous pose des difficultés et que nous avons du mal à comprendre, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Que diriez-vous d'aller chez le tailleur pour qu'il vous fasse un costume en boyau ? Ça doit être élégant quand même, surtout en boyau de miséricorde. Et pourtant, la miséricorde n'est pas un mammifère. Point n'est besoin d'un doctorat en anatomie pour comprendre que le cœur est un organe mécanique, qui n'a rien à voir avec nos états d'âme. Ce qui ne nous empêche pas de dire, tout cartésien que nous sommes, « Je t'aime de tout mon cœur, je t'ai donné mon cœur. Rodrigue, as-tu du cœur, c'est-à-dire as-tu du courage ?» De même, en ce temps lointain, on avait l'habitude de faire siéger nos sentiments et nos états d'âme aussi bien dans le cœur, comme aujourd'hui, que dans l'appareil digestif. Cette coutume ne s'est d'ailleurs pas tout à fait perdue, puisqu'on dit de quelqu'un « il en a dans le ventre » ou au contraire, si c'est un lâche, « il n'a rien dans les tripes ». Du coup, les entrailles, c'est-à-dire les intestins, les boyaux, les tripes, cela représente dans l'esprit de l'auteur biblique là où se trouvent les sentiments, les bons sentiments. Ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi la miséricorde. Et donc, qu'est-ce que l'apôtre a voulu dire ? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ? Tout le monde le comprenait à son époque. Plus personne ne le comprend aujourd'hui. Ça voulait dire tout simplement, soyez capable de pardonner facilement. C'est cela que ça veut dire. Continuons. Des exemples, j'en ai des milliers, mais j'en ai juste sélectionné quelques-uns. Avec le renard, le rusé renard qui fait des ravages dans la vigne. Jésus traite Hérode de renard. Allez dire à ce renard. Nous pensons évidemment que si Jésus compare Hérode à un renard, c'est que celui-ci était un rusé personnage. Eh bien justement, non, pas du tout. L'association d'idées entre la ruse et le renard nous est venue au Moyen-Âge, par le roman de Renard. Reinecke der Fuchs, pour nos amis germanophones, c'est la même histoire. Renard, c'était donc son nom, en fait, puisqu'on disait un goupil, l'animal, c'était un goupil, il s'appelait Renard. Il nous paraît fort sympathique. Par contre, son ennemi intime, Isengrin, le loup, est bien plus grand, bien plus fort que lui, mais comme il est très bête, c'est lui, ce loup, qui se fait toujours avoir. Jésus, évidemment, ne connaissait pas le roman de Renard. Dans l'esprit de ses contemporains, le renard était considéré non pas comme un animal rusé, mais comme un animal cruel. Allez dire à ce renard, ça voulait dire allez dire à ce tyran cruel. J'aurais beaucoup d'autres exemples. Terminons par l'évêque. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Il y a quelques années, un scandale avait secoué l'Église romaine. Un prêtre avait commis des actes de pédophilie. Vous allez me dire, ça arrive tous les jours maintenant. Mais à cette époque-là, c'était encore exceptionnel. Or, l'évêque, qui était au courant de l'affaire, n'en avait rien dit. Un article du Figaro avait écrit, non sans ironie, qu'il n'était pas étonnant que cet évêque ait fermé les yeux, puisque, selon les Saintes Écritures, il faut que l'évêque soit indulgent. Je me suis permis d'écrire à ce journaliste, qui d'ailleurs m'a répondu fort gentiment, que le grec, le terme « épiscopos », traduit par « évêque », signifie « surveillant ». Il désignait donc, au temps où Paul écrivait ces lignes, un homme chargé d'enseigner et de veiller à ce que les choses soient en ordre dans l'Église locale. Nous préférons dire « ancien », « pasteur », à la rigueur. Dans le sens strictement biblique, je pourrais dire que je suis évêque. Mais les gens m'en répondraient « pourquoi pas cardinal, pendant que vous y êtes ?» La chose la plus grave et la plus fréquente en matière de compréhension de la Bible, ce sont nos partis pris, nos préjugés, nos propres convictions. Sans souhaiter lancer un débat sur la crémation, je vous livre l'extrait d'un article dont je préfère taire le nom de l'auteur. Je m'étonne simplement que cet exégète de renommée internationale puisse commettre une telle faute d'herméneutique. Je ne vois qu'une seule explication, et c'est cela qui me chagrine, c'est qu'il veut faire passer sa propre prise de position avant la pensée du Seigneur. Et ça, je crois que ça nous arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé, en tout cas. Il répond à un lecteur que l'on ne peut se faire incinérer sur la simple croyance que c'est le feu qui purifie l'homme du péché. Sur ce point, je lui donne raison. Mais voici ce qu'il écrit. Sur la base de l'Écriture, je sais que ceux qui, volontairement, le mot est souligné, se font incinérer en subiront de lourds dommages, ça aussi c'est souligné, Amos, chapitre 2, verset 1. Mais que selon ce verset, Dieu envoie le feu du jugement sur ceux qui brûlent, calcinent les eaux, cela est un autre problème. Il convient que vous tentiez de justifier la crémation, non, il ne convient pas, pardon, que vous tentiez de justifier la crémation en affirmant que le feu constitue un jugement et sert donc à transformer et à purifier. Ce principe vaut pour Dieu seul qui peut faire tomber le feu du jugement. Mais l'homme, donc là c'est l'auteur qui dit cela, hein, mais l'homme n'a jugement le droit de se faire incinérer. La Bible affirmant que le corps doit être semé, ce mot est souligné. Il ne peut, dès lors, en aucune manière être question de crémation. Ce frère est donc opposé à la crémation, c'est son droit. D'autres vont encore plus loin en affirmant que la crémation est une abomination, c'est-à-dire ils iraient même jusqu'à dire que si je suis né de nouveau, que j'ai véritablement vécu comme un chrétien, mais que finalement je me fais incinérer, eh bien je pourrais aller en enfer quand même. Or là déjà, il y a quelque chose qui cloche. On ne peut pas aller en enfer si on est né de nouveau. Mais certains l'affirment en partant de ce passage donc d'Amos 2:1 que nous allons lire. Le texte, outre le texte d'Amos, il vous balance en vrac tous les passages où il est question de feu et de jugement. Mais que dit le prophète Amos ? Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab. Il dévorera le palais de Kériot, et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. Le roi de Moab a donc brûlé le corps et les os de son ennemi. Il m'arrive de dire par plaisanterie qu'il en a fait de l'engrais pour ses géraniums, mais ça, ce n'est pas écrit. Libre à chacun de penser ce qu'il veut de la création. Mais de quel droit pourrions-nous fonder une doctrine, car pour certains c'est notre salut qui est en jeu dans cette affaire, sur un fait historique isolé? Aucune doctrine ne peut se fonder sur un texte de l'Ancien Testament sans qu'elle ait une confirmation dans le Nouveau Testament. Aucun texte du Nouveau Testament ne peut confirmer une doctrine si elle n'a pas été déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Or, pour trouver ici de la matière doctrinale, il faut être un bon menuisier, savoir raboter la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle s'encastre dans nos pensées. Plus loin, notre auteur donc appuie sa position en disant que de toute façon, le corps doit être semé. Il ne donne pas de référence biblique, mais je suppose qu'il pense à 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 et 43. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ici encore, le lien entre le blé que l'on sème et la dépouille qu'on inhume me paraît bien ténu. Qu'en sera-t-il des marins perdus en mer? Si le rabot est un outil inefficace, pour connaître la parole de Dieu, je vous conseille d'utiliser un autre outil, un tamis. Vous y jetez toutes vos convictions et vous secouez. Le sable fin qui va tomber du tamis, c'est ce que Dieu veut que vous sachiez et que vous compreniez. Les cailloux qui restent sur la grille, ce sont nos idées, nos croyances, nos expériences, nos songes, nos visions, nos prophéties. Notre pasteur qui a dit cela, le frère un tel qui a dit ceci. Trop de chrétiens utilisent leur tamis à l'envers. Ils font passer la parole de Dieu dans le filtre de leurs idées, de leurs croyances, de leurs expériences, de leurs songes, de leurs visions, de leurs prophéties. J'aimerais pour conclure vous laisser méditer ces deux textes. Le premier, c'est dans 2 Pierre, chapitre 13, versets 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et là, vous remarquez que Pierre, donc, rend témoignage de ce que les écrits de Paul sont bien inspirés et qu'ils font bel et bien partie de l'Écriture. À cette époque-là, on n'en était pas tellement sûr. C'est ainsi qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la gloire, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Notre deuxième et dernière lecture, c'est dans 2e Épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. 2 Timothée 4, 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Je vous remercie de votre attention. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Que Dieu vous bénisse.